Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Iris, mon invitée du jour, est la maman de deux adorables petites filles de 2 ans et demi et 1 an. Très vite après la naissance, sa première fille a été diagnostiquée comme étant ce qu'on appelle communément un bébé RGO. Le RGO, ou reflux gastro-œsophagien, est la remontée involontaire du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Il existe plusieurs formes de RGO, des RGO externes avec de grosses régurgitations par exemple, des RGO internes qui passent souvent inaperçus car invisibles, mais faisant se tordre de douleur des bébés sans que l'on comprenne pourquoi à première vue. Iris a été confrontée à ces deux cas, puisque sa première fille était atteinte d'un RGO externe sévère qui a nécessité une prise en charge médicamenteuse importante, quand sa deuxième a connu le RGO interne, plus léger mais tout aussi impactant au quotidien. Dans cet épisode, Iris nous raconte son parcours de maman de bébé RGO, depuis les premiers symptômes au traitement mis en place, en passant par le diagnostic qui n'est pas toujours aisé. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Iris, bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie, moi, de te recevoir aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui m'est, pour une fois n'est pas coutume, assez inconnu dans le sens où je ne l'ai pas vécu personnellement. Mais avant d'aborder le sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît?
Eh bien, merci Élise de m'accueillir dans ton podcast. Je suis vraiment ravie d'y participer, de pouvoir apporter mon expérience de maman à toutes les mamans et tous les parents, même les papas qui nous écoutent ou les grands-parents. Et moi, je suis Iris, j'ai 31 ans déjà, bientôt 32, et je suis la maman de deux petites filles rapprochées, donc Blanche, qui a 2 ans et demi, et Adélaïde, qui aura 1 an très prochainement.
Trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle, un petit peu de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être maman?
Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours désiré. Petite fille, je me disais qu'un jour, je serais maman, mais c'était pas un goal, c'était pas forcément un objectif principal. Et en fait, je suis devenue maman quand je l'ai senti et que je me suis dit avec mon compagnon, c'est le moment, on est prêt en fait. Mais c'était pas un objectif de vie en soi, bien que je savais que je serais maman un jour.
Vous en aviez parlé justement avec ton conjoint avant ?
Oui, on en avait parlé, on savait qu'on voulait, moi je voulais 3 ou 4 enfants, hein.
Ouais.
Lui en voulait 2. On savait qu'on voulait des enfants un jour, mais je veux dire, c'était pas un sujet qui revenait tous les jours parce que on se disait que lorsqu'on serait prêt, on sauterait le pas. Et puis je me souviens que c'est un soir, on avait dîné chez des amis qui avaient des enfants. Et puis mon mari, qui est très très, je veux dire, qui aime beaucoup les enfants, m'a dit ce soir-là en rentrant dans la voiture, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, Iris, quand est-ce qu'on en a un à nous? Et puis c'est là du coup qu'on s'est dit bon, allez, on est prêt. C'est parti.
Ouais. Ah, c'est trop cool. J'aime bien les histoires comme ça. Et alors, du coup, vous êtes lancée dans l'aventure.
Ouais.
Est-ce que ça a été un parcours facile ou compliqué pour vous de concevoir vos enfants?
Non, ça a été très facile. J'étais sous pilule depuis mes 16 ans, depuis très longtemps.
Ouais.
Et puis, j'ai arrêté la pilule. Et puis, j'avais des cycles assez irréguliers. On n'avait pas eu beaucoup de chance vu que je n'avais pas mes règles tous les mois. Mais disons que c'est venu au bout de 2 cycles. Au bout de 2 cycles,
ouais,
donc ça a été assez rapide, ouais, pour la première. Et puis pour la deuxième, j'ai pas repris la pilule entre les deux et je la reprends toujours pas d'ailleurs. Et entre les deux, pareil, on voulait des bébés rapprochés et du coup, on s'est dit, allez, une fois que la petite première a eu 10 mois, on s'est dit, allez, c'est parti pour le deuxième. Et puis, assez 1 an, j'étais enceinte.
Ah ouais, donc vraiment, vraiment facile, c'est une chance, c'est trop chouette. Comment tu réagis, toi, quand t'apprends ta première grossesse?
Quand j'apprends ma première grossesse, je suis aux anges. J'arrive pas à croire que c'est réel. Je voulais absolument être enceinte. C'était à partir du moment où, avec mon conjoint, on a décidé qu'on serait parents. C'était une fixation pour moi. Je buvais maman, je dormais bébé, je mangeais bébé. Je voulais absolument être enceinte et j'avais fait beaucoup, beaucoup de tests. J'en faisais peut-être toutes les semaines et je voyais parce que comme j'avais des cycles irréguliers, je savais jamais. J'avais même pris des tests d'ovulation pour savoir quand j'ovulais. Mais j'étais hyper, hyper émue. Tu sais, en mode, je saute, j'étais trop contente. En fait, j'ai pris le test comme ça, je l'ai regardé et j'ai arrêté de respirer et j'ai fait, tu sais, comme ça, je suis là, à sauter comme une puce et puis voilà.
Et puis voilà. Mais du coup, t'as attendu d'avoir un retard de règles quand même ou alors parce que t'avais l'air tellement au taquet?
Pas du tout. En fait, donc avec mon conjoint, comme on était à fond, on essayait d'avoir des câlins assez régulièrement, comme on ne savait pas quand tombait mon ovulation. Et la veille, en fait, j'ai fait un test d'ovulation et le test d'ovulation a été positif, très très positif. Et là, dans ma tête, je me suis dit, il est vraiment, vraiment positif, parce que c'est comme les tests de grossesse un peu. Je me suis dit, il est vraiment très, très positif, ce test d'ovulation. Et puis, ça m'a mis la puce à l'oreille, ce qui fait que le lendemain matin, je suis allée acheter un test de grossesse sans le dire à mon mari, sans le dire du tout. Et là, il s'avère que le test de grossesse était positif de plus d'un mois. C'est pour ça que le test d'ovulation était...
Ah ouais !
C'est pour ça que le test d'ovulation était positif.
Bah oui, parce que tu n'avais pas des cycles réguliers, donc tu t'es pas rendu compte finalement.
Non, et puis en fait, j'étais assez peu informée finalement. Je m'étais renseignée sur Internet toute seule pour savoir un petit peu, bah, tu sais, quand nos paires vaginales sont un petit peu plus épaisses, quand elles sont un peu plus comme le jaune d'œuf. Enfin, je m'étais renseignée pour savoir un petit peu quand déterminer mon moment de l'ovulation. Un peu toute seule. Et c'était assez compliqué, donc je ne savais pas. Alors qu'aujourd'hui, je sais le reconnaître après des enfants.
Bah, mais... Quand tu as été sous contraceptif comme ça, ouais. Pendant longtemps, tu ne sais plus tout ça. Enfin, c'est pas clair, quoi.
Ouais, c'est pas clair. Et on n'est pas vraiment informé aussi.
Non.
Donc, on cherche les informations toute seule. Voilà, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, voilà, il se trouve que voilà, j'ai sauté comme une puce. Et puis, je me suis dit, bah, il faut que je l'apprenne d'une façon exceptionnelle à Jules, quoi.
Et alors, c'était quoi cette façon exceptionnelle?
Et ben en fait, j'ai pas tenu du tout. Je m'étais dit, en fait, j'avais beaucoup pensé, autant j'avais pas forcément imaginé ma vie de maman, etc. Mais par contre, je m'étais toujours dit, ça faisait des mois que je me disais, quand je serai enceinte, je l'annoncerai de telle façon. Je m'étais fait des petits plans dans ma tête, tu vois, le soir, je mets une musique spéciale, je lui fais un jeu de piste, un truc comme ça. Et en fait, je fais le test, et là, je prends mon téléphone et je l'appelle. J'appelle, il décroche, il était en voiture, et je lui dis. Je me souviens, alors là, je dis, je suis enceinte. Et là, il me dit, c'est vrai? Et je lui dis, oui. Et là, en fait, il m'a dit qu'après... Donc là, il m'a dit, allez, on s'emballe pas, va faire la prise de sang, on s'emballe pas, va faire la prise de sang, tout ça. Et en fait, il m'a dit qu'après, il avait un déjeuner d'affaires et qu'il avait rien écouté, qu'il était, tu sais, le regard dans le vide en train de dire, faut que je rentre là, faut que je rentre. Je vais être papa, je vais être papa.
C'est trop fou. Et en plus, dans la voiture, c'est un peu risqué, quoi.
Ouais, c'est pour ça, du coup. ouais, du coup, il a dit, attends, va faire le test et puis on va faire la prise de sang et on en reparle ce soir.
N'empêche, cette annonce que tu avais tant imaginé qui s'est pas passé comme prévu, c'est un joli avant-goût de la parentalité.
Exactement. Et puis en plus, ça a été pareil pour la deuxième. Pareil. Ouais. Si tu veux que je te raconte, c'était pareil.
T'as fait aussi ça comme ça. On va faire un petit ordre chronologique, tu vois. Ouais. Comment s'est passée ta grossesse, cette première grossesse?
Très bien. Alors, le premier trimestre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de nausées. Mais en fait, j'ai vraiment adoré être enceinte. C'était pas pour moi... J'en garde, tu vois, tu me poses la question et tout de suite, je te réponds, ça s'est très bien passé. Et quand je creuse un petit peu, je me dis oui, effectivement, le premier trimestre, c'était très dur parce que je vomissais tout le temps. J'avais vraiment des nausées. Mais quand c'est passé après, deuxième trimestre... Je me sentais belle, je me sentais bien, j'adorais, je passais des moments avec mon bébé, je me faisais des petits massages, je me sentais hyper épanouie, hyper bien. Et puis le troisième trimestre aussi, bien que les dernières semaines un peu compliquées parce que gros ventre et on peut plus faire grand chose, mal de dos, mais ouais, la grossesse s'est hyper bien passée.
Je te pose toutes ces questions parce que moi, je trouve que c'est intéressant justement de voir un petit peu comment ça s'est passé pour aborder notre sujet profond. Là, on va partir sur la naissance. Comment s'est passée la naissance de ta première fille?
Alors, la naissance s'est bien passée, mais il y a eu utilisation médicale parce que, en fait, rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il fallait aller très vite, parce qu'il fallait libérer des salles.
D'accord.
Je me suis rendu compte après l'accouchement de ça. Et donc, en fait, ils ont utilisé la ventouse pour la faire sortir. Donc, ils ont utilisé la ventouse, mais en soi, sinon, l'accouchement, parce que voilà, ils n'ont pas attendu que je pousse jusqu'à la fin. Mais l'accouchement en soi, c'est très, très bien passé. Moi, j'étais un petit peu endommagée, j'ai eu un gros œdème, mais tout ça, c'est derrière moi. Mais sinon, l'accouchement, c'est bien passé. Voilà. Après, elle allait très bien. Pas de souci à part ça.
Donc du coup, ta petite fille arrive, ta première fille arrive. Ouais. Comment tu te sens? Tu te sens tout de suite maman? Tu te sens heureuse? Ou alors ça met un peu de temps justement pour vous apprivoiser?
Ça a été très naturel. Très naturel. J'ai posé mes yeux sur elle. Là, tu vois, je suis émue là, en parlant. Parce que
l'émotion.
Ouais, non, mais là, tu vois, j'ai les larmes aux yeux et j'ai ma gorge qui se serre parce que je me revois avec elle quand il la pose sur moi. C'était... Tu vois,
ouais.
C'était vraiment magique et tout de suite une connexion et j'aime tellement fort.
Mais ouais. C'est chouette, attends, ouais. C'est génial quand ça se passe comme ça, ouais, tu c'est... rigoles, c'est un c'est souvenir, bah, regarde la preuve qui est encore aussi fort aujourd'hui. Et,
ouais. Et pourtant, et c'était, pas évident. C'était pas évident parce que j'avais très mal, moi, parce que du coup, comme ils ont utilisé la ventouse, j'avais un énorme œdème, je pouvais pas m'asseoir, j'étais obligée de rester allongée, enfin, ça a été très très dur physiquement pour moi. Pendant 2 semaines, j'ai rien pu faire, mais ça reste pour moi très, très beau.
Ouais. Bah oui, tu arrives à dissocier quand même ouais. ce que tu as vécu physiquement. Ça, qui j'aurais dû te dire de prendre les mouchoirs. Mais du coup, oui, de cet accouchement qui, malgré tout, s'est bien passé, mais qui a quand même été très invasif, qui n'a pas été d'ordre naturel complètement, puisqu'il y a eu cette intervention qui a des conséquences, qu'on le veuille ou non, hein, qui a eu des conséquences sur toi physiquement, mais peut-être aussi sur ton bébé. Parce que ce qui s'est passé après est peut-être aussi une conséquence de cette naissance un peu brutale. Est-ce que tu peux, parce que on va enfin révéler, même si en fait je suis quasiment sûre d'avoir dit en intro avant, mais révéler le sujet. Aujourd'hui ensemble, on va parler de RGO, mm-hmm. donc qui est le reflux gastro-œsophagien.
C'est ça.
Parce que tu es maman de 2 bébés qui ont connu ça, qui ont connu le RGO. Comment ça s'est passé la mise en place de l'alimentation pour ta première fille?
Alors, l'alimentation pour ma première fille, donc je n'ai pas allaité mes 2 filles par choix. Donc, elles ont été au biberon. Et en fait, l'alimentation de ma première fille, on a très vite intégré les purées, justement parce qu'elle était RGO et que avec du solide, on régurgite un petit peu moins. Et ça s'est avéré juste, de toute façon.
Et du coup, quand tu as commencé à lui donner des biberons, comment ça se passait, les premiers biberons, tu vois, les tout premiers?
Alors, à la maternité, le tout premier biberon s'est très bien passé dans la salle de naissance, quand on est resté en bas avec le papa. Et ensuite, je suis remontée en chambre. Et je me souviens plus si ça s'est produit sur le premier ou le deuxième biberon. Mais là, elle m'a fait un geyser. Je crois que ça s'est exactement... Voici, je me souviens. Ça s'est passé le soir. Je me souviens parce que le papa était parti. Ça s'est passé le soir et là, elle a fait un énorme geyser, mais assez éloigné de son biberon. C'est-à-dire qu'elle a pris son biberon et après son biberon, elle a fait une petite régurgitation. Et puis peut-être 1h30 après, je l'avais dans les bras, j'allais pour la changer. Elle avait dormi. Elle avait très bien dormi. Elle se réveille, donc je la prends et je vais pour la changer. Et là, dans mes bras, elle fait un énorme geyser, mais elle retapisse toute la chambre. Énorme geyser avec beaucoup, beaucoup de pression. C'est pour ça que j'utilise le terme geyser. Beaucoup, beaucoup de pression. Donc là, j'appelle à l'aide. Est-ce que c'est normal?
Qu'est-ce qu'on te répond, du coup?
Alors, j'appuie sur le petit bouton. Vous savez, à la maternité, j'appuie sur le petit bouton pour appeler les infirmières ou les aides-soignantes. Et là, il y a une aide-soignante qui me répond, ou une puéricultrice. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma petite fille, là, qui vient de naître, vient de régurgiter. Et donc, en fait, j'ai eu ce mot. J'ai dit, elle vient de régurgiter. Et donc là, elle me répond, mais c'est normal, madame, c'est un nourrisson, c'est normal. Tous les bébés régurgitent. Donc, elle me dit ça assez froidement par l'interphone. Et donc là, je suis un peu paniquée parce que je me dis... alors, c'est mon premier enfant, donc j'ai pas de comparaison. Je me dis, ah bon, c'est... dans ma tête, je me dis, c'est normal. Enfin, mais ça me paraît pas normal qu'elle ait fait un aussi gros. Donc, j'insiste, je dis, mais c'est vraiment... Et là, je sors le mot geyser. Je dis, c'est vraiment un geyser. Elle a régurgité tout son biberon. Et là, elle me répond, oui, je sais, madame, ça peut paraître impressionnant, mais non, elle a pas régurgité tout son biberon, rassurez-vous.
Je trouve ça fou qu'elle te dise ça à distance, sans même déplacer et sans regarder, en fait.
Donc là, je réponds, j'étais avec ma petite fille et dans les bras, et là, je réponds à la personne, je dis, d'accord, par contre, est-ce que c'est possible de venir, nettoyer, enfin, de venir m'apporter des nouveaux draps, parce que vraiment, là, il faut tout changer, et voilà, quoi. Et donc là, je demande quand même, je dis, d'accord, qu'est-ce que je fais? Et je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui redonne un biberon? Est-ce que je... Là, tiens, elle me dit...
Ouais.
Et là, en fait, elle me prend vraiment pour une idiote, parce qu'elle me dit, bah, vous la tenez contre vous droite. Et là, je lui dis, mais oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais pas laisser vomir allongée pour qu'elle s'étouffe. Je suis pas non plus neuneu, quoi. Donc là, je me dis, d'accord. Et là, en fait, je lui dis, mais est-ce que vous allez passer? Et elle dit, oui, je passerai tout à l'heure pendant ma garde, quoi. Donc là, à l'époque, j'étais pas forcément informée sur les soucis qu'on a aujourd'hui de savoir. Effectivement, aujourd'hui, elles sont surbookées. Il y a énormément de monde. C'est vrai que, voilà, je l'ai vu avec ma deuxième. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème. Donc là, c'était pas une sage-femme. C'était une puéricultrice et une
ouais, mais il y a un problème dans le, de personnel.
Il y a un problème
médical.
De personnel. Mais au-delà, j'ai pas eu l'impression d'être prise en considération, surtout que c'était mon premier enfant. Tu vois, ce serait mon deuxième. Là, mon deuxième enfant, ça s'est produit aussi. J'ai géré toute seule. Tu vois, j'étais pas du tout paniquée. Mais là, j'étais complètement paniquée de me retrouver. J'avais accouché il y a quelques heures. Mon bébé qui vient de se vider littéralement de son biberon. Et en fait, on me dit c'est normal. Et on me me dit comme on me prend pour une débile en me disant, bah, tenez la droite. Oui, bah, c'est instinctif. Oui, je l'ai tenue droite. Ça y est, oui. Donc là, en fait, je me retrouve face à ma solitude dans ma chambre le soir toute seule.
Mais c'est ça. Moi, ce qui me marque énormément, c'est cette distance, notamment déjà dans la façon de parler, mais physiquement. Enfin, je veux dire, t'es seule, quoi.
Ouais, là, je me suis retrouvée toute seule, donc avec ma petite fille qui, du coup, ça va, elle pleurait pas, parce que là, une fois que c'était sorti, elle pleurait pas. Ah, du coup, elle a changé. Ah, en plus, un petit nourrisson, quand c'est les premiers, tu vois, c'est ça.
C'est le premier jour, quoi.
C'est le premier jour. Alors, je suis à l'aise parce que c'est ma fille, tu vois, mais je fais hyper attention. Elle a froid, je la recouvre, enfin, faut la changer entièrement. En plus, heureusement, j'avais installé les vêtements, mais tu sais, tu cherches le pyjama de machin et tout, tu te dis.
Ouais, c'était pas prévu.
Tout le premier, ça aurait été quand même sympa qu'il y ait une personne déjà qui juste vienne et regarde, constate et me rassure.
Parce qu'en plus, même ton mari n'était pas là, quoi. Enfin, t'étais
vraiment. Non, mon mari n'était pas là, il était rentré, il pouvait pas dormir à la maternité. Donc, non. Donc, j'étais vraiment toute seule et du coup, j'appelle ma mère, quoi. Je dis, maman, elle vient de régurgiter énormément. Donc, elle me dit comment elle a régurgité. Donc, là, je dis énormément, qu'est-ce que je fais, est-ce que je leur donne à manger ou pas? Et donc là, elle me conseille, elle me dit non, il ne leur donne pas à manger parce qu'en fait, son estomac, là, il a eu un énorme trop-plein. Donc, essaie de patienter un petit peu. Effectivement, c'est ce que m'ont dit le personnel après. Mais sur le moment, je suis seule et en fait, je me souviens que la personne est passée peut-être 2 heures après, quoi.
Et en plus, tout était souillé, tu disais, enfin, les draps et tout ça, enfin, tu peux pas.
Tout était souillé. J'ai rappelé entre-temps pour demander à une personne d'apporter des draps propres et on m'a apporté des draps propres entre-temps. Mais c'était du coup la personne qui elle m'a dit j'attends que la puéricultrice passe pour constater elle-même ou voilà. Donc ouais donc en plus la personne est passée après et m'a dit bah de toute façon vous avez le rendez-vous avec le pédiatre demain donc vous lui en parlerez. Donc moi je suis restée un peu toute la nuit et ça ne s'est pas reproduit dans la nuit et ça ne s'est plus reproduit à la maternité. Ça ne s'est plus reproduit à la maternité de toute façon dans mes souvenirs. Mais ouais, première fois assez violente.
Ah ouais, tu m'étonnes, attends, quand même, voilà l'expérience. Et après, vu que ça s'est pas reproduit, j'imagine que tu as été un peu plus rassurée aussi.
Alors, ça s'est pas reproduit parce que je me suis dit, j'avais peur que ça se reproduise et que du coup, en fait, tu sais, quand on a la maternité, tu as cette pression de nourrir l'enfant. Il faut lui donner un biberon tous les temps, etc., qu'il prenne son poids, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est aussi pour libérer des salles et que c'est pour s'assurer qu'il ait bien pris du poids, mais... Pour ma petite, hein, j'ai fait confiance en moi. Pour ma deuxième fille, ça a été complètement différent. La maternité, j'étais à la one again, laissez-moi tranquille. Ouais. Et pour la première,
Ouais, mais sur un premier, tu peux pas.
Ouais, tu sais pas, et t'écoutes, tu fais hyper confiance. Donc, du coup, je m'étais dit, voilà, il faut qu'elle reprenne du poids. Là, elle a régurgité tout son biberon. Donc, du coup, je faisais hyper attention. Je la gardais droite tout le temps. Et même, je l'ai gardée quasiment à dormir avec moi, sur moi, tout le temps, pour qu'elle soit absolument pas dans une position allongée.
Donc du coup, tu quittes cette maternité, retour à la maison. Comment ça se passe le retour à la maison déjà, dans la fluidité, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas trop seule? Enfin, t'es entourée? Comment ça se passe?
Oui, je suis très entourée. Jules venait me voir tous les jours à la maternité. Il restait un bon moment, plus que pour la deuxième. On en parlera plus tard parce que c'était pendant le Covid, la deuxième.
Ah oui.
Mais là, oui, il était très très présent. Tout le monde, j'ai reçu des fleurs, j'ai reçu des cadeaux. Par contre, pour nos deux accouchements, je ne souhaitais pas de visite. Je souhaitais vraiment avoir ce moment rien que pour moi et pour ma petite et puis pour mon mari. Et alors, ça se passe très bien. Moi, je suis très amochée par l'accouchement. J'ai un énorme œdème de la taille d'un avocat entre les jambes, vraiment. Donc, c'est très difficile pour moi de marcher. Je marche en canard. Mais tu sais, on a cette force.
Mais t'as pas le choix aussi.
Aussi, on n'a pas le choix. C'est pour ça aussi que ça a été très compliqué pour moi de donner les biberons. Parce que pour donner le biberon, en fait, si tu veux... Je ne pouvais pas, en fait, c'est vrai qu'il faut aussi que je le décrive, ça. Je ne pouvais pas être allongée ou assise pour donner le biberon puisque je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, en fait, je tenais le biberon dans une position où je me mettais tout simplement, pour que ce soit assez visuel, je mettais ma petite sur mon oreiller, contre mon oreiller, en position un peu semi-assise. Et moi, je me mettais à 4 pattes devant elle, en fait. Et je donnais le biberon comme ça. Donc, c'était très glamour, très bien. Mais aussi, ça, par contre, c'est quelque chose aussi, j'en ai beaucoup souffert, ça, de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras et lui donner le biberon normalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire 2-3 jours après l'arrivée à la maison. En m'installant bien chez moi, en étant vraiment à l'aise, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Mais sinon, ouais, je le donnais à 4 pattes, c'était pas... Enfin bref, on fait comme on peut.
Ouais, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui reste... c'est pas anodin, en fait. Parce que même si, c'est passé et que c'est derrière toi, ça reste pas anodin, ces choses-là. Parce que, parce qu'il fallait aller vite. Parce que tu as eu cette intervention qui n'était, à mon sens, et je le pense, après j'étais pas là, mais pas forcément nécessaire.
Non, elle était pas nécessaire.
Parce que c'était juste une question de temps.
J'ai entendu l'équipe personnelle en parler, en fait, après, une fois qu'elles étaient en train de me recoudre, que le bébé était sorti. Vite fait, j'entends dire une phrase, un petit peu, il était temps parce que madame, je sais pas quoi, avait besoin de la salle. Et en fait, moi, j'ai juste souffert de ce temps, en fait, qu'elles m'ont posé sur moi. Mais en fait, ça a été assez rapide parce que tout de suite après, moi, il fallait s'occuper de moi. Et donc, il fallait, j'ai eu une bâche et il fallait vraiment me recoudre parce qu'il y avait des gros dégâts, du coup.
Ouais, bah oui, mais causé par quoi, tu vois?
Ouais, et puis, elle avait un chapiteau sur la tête, hein. Elle avait un chapiteau sur la tête, ma fille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, elle est très résistante à la douleur. Elle peut se cogner. Et il faut faire attention parce qu'elle peut se cogner. Enfin, elle ne s'est jamais ouverte, mais elle peut se cogner très fort. Elle ne dira rien, quoi.
C'est quand même pas anodin. Et ça ne te permet pas de faire tes débuts en maternité de façon optimale, en fait. Juste, tu souffres. Tu souffres pour une raison qui n'est même pas...
nécessaire. Alors, par contre, on en reviendra après. Mais tu vois, par exemple, je n'ai pas eu du tout de chute d'hormones à la maternité par rapport à ma deuxième fille. Et j'étais très bien à la maternité. J'ai passé pour ma première fille, à mon premier accouchement, j'ai passé un séjour à la maternité super bien. Je me souviens que, oui, j'étais fatiguée, évidemment, mais c'était vraiment un moment, j'étais, et je vais le dire, donc tu vas dire que c'était pas pareil pour la deuxième, mais j'étais heureuse. J'étais très heureuse. Je me sentais à l'aise, hyper bien. Et du coup, le retour à la maison, pour répondre à ta question initiale, c'est très bien passé. Alors, elle était à l'arrière, et moi, j'étais à l'arrière, les jambes en l'air, j'étais sur le dos avec les jambes écartées en l'air, parce que je pouvais pas m'asseoir. C'était assez scabreux.
Ah, l'enfer.
Voilà. Ouais. Mais sinon, je regarde, mais en fait, ça, c'est pour moi, c'était des trucs techniques parce que pour moi, j'étais tellement heureuse de rentrer à la maison avec ma petite fille et d'avoir vécu un séjour à la maternité qui était vraiment bien.
Heureusement que tu avais le moral qui était bon, quoi.
J'avais le moral hyper bien et j'étais hyper heureuse de rentrer à la maison avec ma petite. Ça a été très naturel. J'avais un lien avec elle hyper fort. Enfin, ça a été génial, quoi. J'en garde un très, très bon souvenir.
À partir de quand ça a commencé les problèmes de douleur, de régurgitation, de RGO et tout ça?
Alors, à la maternité, il y a eu juste cette première fois dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et en fait, on est rentré à la maison. Et j'avais la montée de lait. Donc, j'avais une poitrine énorme, très, très, très douloureuse. Et j'avais surtout cet œdème. Donc, mon mari a été hyper... Il m'a dit, en fait, là, les trois premières nuits qu'on est rentré à la maison, il a dit, toi, tu dors la nuit. Il a dit, lui, il est allé dormir dans le salon avec la petite, dans le canapé. Et il a dit, je gère les nuits, quoi.
Je gère.
Que tu te reposes à fond. Merci. Donc, c'est lui qui m'a... Et donc, j'entendais le soir, donc moi, j'allais me coucher comme une mamie à 20h. Et puis, sur le coup, je savais quand il y avait le biberon à peu près, et j'entendais « Oh putain, c'est quoi ça ?» Tu sais, j'entends...
Ah ouais.
J'entends « Oh putain, Iris, viens, 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 viens !» Tu vois ? Parce que je lui avais dit qu'elle avait régurgité à la maternité, mais je pense que le voir, c'était différent. Et du coup, Larry, il fait « Ah mais là, faut tout changer, regarde et tout !» Et là, je dis « Ah bah !» Et là, je me souviens, je lui dis « Voilà, c'est ça dont je t'ai parlé !» Tu vois ? Et là, il fait, mais c'est pas normal, ça. Et donc, du coup, mais elle pleurait pas, elle souffrait pas, en fait, parce que du coup, c'était pas encore, on n'était pas arrivé au stade. Enfin, voilà, c'est pas normal. Et donc, voilà, la nuit se passe, elle l'a pas refait. Donc, on a tout changé, ses draps, ses vêtements, ses roulettes. J'ai pas entendu dans la nuit, mais de toute façon, elle n'a jamais récurgité la nuit. Il n'y avait que jusqu'au dernier biberon et la journée. Ça reste encore un mystère pour nous. Et donc, du coup, il y a les visites. La sage-femme venait nous voir à domicile les deux premières semaines. Donc, il se trouve que le lendemain, il y avait cette visite à la maison. La première visite n'est pas très éloignée du retour à la maison. Donc là, on lui en parle et là, elle nous explique. Et là, directement, elle nous dit « Ah oui, je vous fais une ordonnance pour lui donner du lait AR, du lait anti-régurgitation. » En fait, c'est du lait épaissi. Et donc, effectivement, on lui en a donné et ça a diminué la régularité des régurgitations. C'est-à-dire qu'avant, elle régurgitait tout le temps systématiquement. Là, ça a un peu ralenti, ça a espacé. Et ça restait quand même à chaque biberon.
Oui, ouais, quand même.
Restait à chaque biberon. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais là, jusqu'à présent, on se disait, voilà, elle régurgite. Ça arrive aussi d'avoir un reflux. Ça peut arriver. On n'est pas encore au stade médical. On ne pensait pas du tout aux médicaments ni rien. On se disait, c'est un petit bébé, c'est normal. Là où j'ai commencé à m'inquiéter, pour moi, elle n'avait pas de colique. Et mes deux filles n'ont jamais eu ça. Pour moi, parce que les coliques, c'est aussi... les coliques, c'est un truc fourre-tout. On met...
C'est un grand mot. Ouais.
Les couleurs gastriques, l'épée, les gaz. Ouais. Où on met aussi les pleurs du soir dans les coliques. Mais en plus, j'ai de la chance, elles n'ont jamais eu de pleurs du soir. Franchement, je vois. Donc oui, en fait, j'ai fait la part des choses parce qu'effectivement, elle avait des coliques puisqu'elle avait des... Je sentais quand elle gazait, qu'elle pétait... Ça lui faisait mal et tu vois, elle était soulagée quand elle pétait. Enfin, excuse-moi, quand elle gagne.
Oh non, mais écoute, hein, tu sais, quand on devient parent, il n'y a plus de mots tabous.
Voilà, donc je savais qu'elle avait des douleurs et ça allait mieux quand elle évacuait ses gaz. Donc, je me suis mise à la masser. D'ailleurs, j'ai un super massage sur mon compte Instagram. Hein. Faut aller le voir.
Ah bah écoute, on ira voir.
Qui aide énormément de parents. Non mais vraiment, nous, c'est notre ostéopathe qui nous l'a conseillé. Et donc, à partir du moment où je l'ai massée, et que j'ai donné un petit peu d'homéo, c'est passé les coliques. Donc, je savais que c'était pas ça. Et pourtant, elle était toujours inconfortable et ça pouvait venir, en fait, d'un coup, tu vois, c'est-à-dire qu'elle pouvait être très calme et tout d'un coup, elle était pas bien. Et systématiquement, au moment où elle était pas bien, j'avais identifié qu'elle elle salivait, elle faisait, tu sais, elle se... je sais pas comment le décrire...
Elle faisait des choses avec sa bouche, avec sa langue, tout
ça. En fait, elle salivait et elle avalait. Et en fait, j'ai compris après que du coup, elle cherchait à avoir une matière pour atténuer son mal à l'œsophage. Donc, en fait, elle salivait, elle attendait et elle avalait. Et donc, en fait, j'ai réussi à identifier ce moment-là. C'est-à-dire, voilà, elle n'est pas bien, elle est inconfortable, elle pleure et elle fait ce petit signe.
Parce que du coup, tu te rends compte de ça. C'est plein de petites choses finalement qui s'ajoutent. Mm-hmm. Tu en parles au pédiatre qui te suit. Quelle est sa réaction ?
Alors, on a un rendez-vous la première semaine, donc j'en parle. Je lui explique ce qui s'est passé à la maternité. Elle me dit, c'est très bien, je vois que la sage-femme vous a fait ponduler l'air. Elle me dit, on est peut-être sur un RGO, mais il est encore trop tôt, comme le bébé est encore tout petit, c'est encore beaucoup trop tôt pour mettre un diagnostic dessus et surtout entamer un traitement. Et ça, j'étais totalement d'accord avec elle. Donc du coup, elle me dit, on se revoit toutes les semaines. Alors normalement, on n'est pas censé revoir toutes les semaines. Hein.
Normalement, non, c'est tous les mois.
Et après tous les mois, elle me dit, on se fait un point la semaine prochaine. Elle m'a dit, on prend rendez-vous et on voit où ça en est et on avise. Donc la semaine passe, pas d'amélioration. Et surtout, pas d'amélioration et un nouveau symptôme. Je constate que ma petite fille, donc qui faisait un peu des gazouilles, mais légèrement au début, il ne parle pas énormément, mais que quand elle commence à pleurer, enfin, quand elle a faim, eh ben, ses pleurs ne sont plus les mêmes, il n'y a plus le même son. En fait, je reconnais un son de voix cassée. En fait, elle pleure, ça fait... Tu vois, ça ne fait pas des pleurs comme elle avait une semaine avant. Je reconnais, c'est la voix cassée. Et donc là, je me dis, mais elle ne coule pas du nez, elle ne tousse pas, elle n'est pas enrhumée. Bon, il se trouve que le rendez-vous chez la pédiatre est quelques jours après, donc j'attends. Et donc, je l'en parle, elle le constate aussi. Et donc là, elle l'ausculte et elle me dit, effectivement, elle a l'œsophage complètement à vif, c'est-à-dire complètement brûlé. Donc là, j'ai envie de pleurer, je me dis, oh mon Dieu, mon pauvre bébé, c'est horrible. Voilà, donc elle me dit, vous inquiétez pas, on va lui prescrire donc du Gaviscon qui se donne soit avant, soit après. Alors ça, c'est, voilà, vous voyez si vous écoutez ce podcast avec votre médecin, parce qu'il y a plusieurs écoles.
De toute façon, tout ce qui est traitement, tout ça, il n'y a pas de conseil ou quoi, c'est vraiment à voir avec le professionnel médical.
Ouais, exactement. Nous, pour notre première, on l'a toujours donné avant, parce qu'en fait, c'était quasiment impossible de donner après, tellement c'est dégueulasse. Et ça faisait effet aussi avant, mais bon. Donc du coup, elle nous dit, vous allez donner le Gaviscon avant les biberons, et puis ça va l'apaiser. Et ma deuxième fille a été aussi à RGO, et vous verrez que c'était des symptômes complètement différents. Donc là, Blanche, elle n'avait absolument pas mal pendant qu'elle mangeait. Absolument pas mal, et ça l'empêchait pas de... Il n'y avait pas d'appréhension par rapport à manger, donc elle mangeait très très bien. C'est juste qu'elle régurgitait tout. Et donc là, on donne le Gaviscon, et bien ça se passe très bien, et effectivement, sa voix revient à la normale, mais ça ne stoppe pas les régurgitations qui sont toujours très très importantes, quoi. Très très importantes. Et elle ne prend pas de poids.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, qu'au niveau de la prise de poids, est-ce que ça se constate aussi, ça ?
Alors, elle était dans une petite courbe. Elle était dans une petite courbe, pas alarmant, mais elle était dans une petite courbe. Donc, il faut dire qu'elle prenait vraiment des gros biberons à chaque fois. Donc, je pense qu'il lui en restait aussi un petit peu. Donc, je reviens voir la pédiatre. Mais du coup, comme elle régurgite un petit peu moins souvent grâce au lait AR et qu'elle a ce traitement Gaviscon, je me dis... Voilà, elle régurgite plus que deux fois par jour, je dirais. Sur deux biberons, elle en régurgite deux. Elle n'a jamais régurgité les biberons de la nuit. Donc, elle régurgite deux fois par jour. Et en plus, elle a très vite fait ses nuits. Hein. C'est-à-dire qu'à deux mois, ouais, à un mois et demi, elle faisait ses nuits.
Ouais.
Donc, là-dessus, il n'y avait pas de biberon la nuit.
Non, on ne va pas te détester. Pourquoi tu fais ça ?
Donc, après, j'ai fait toutes les solutions. C'est-à-dire que je la gardais quand même. Après chaque biberon, je la gardais au moins 45 minutes contre moi. Je faisais bien faire l'euro. Je la mettais jamais allongée sur son tapis tout de suite. Je la mettais dans un transat qui avait une position assise très physiologique. Donc, pas assise, mais un petit peu inclinée, qui respecte la physiologie de bébé. Et puis, j'avais surélevé son matelas dans son lit. Donc voilà. Donc, ça, c'était très bien. Mais il n'empêche que... Mais du coup, ça arrivait quand même encore deux fois par jour, je dirais minimum, qu'elle régurgite encore des geysers. Donc, elle, c'était le bébé bavoir, le bébé l'ange. Et je vois que c'est totalement différent de sa petite sœur, qui était pourtant RGO, mais différemment. Blanche, je devais la changer trois ou quatre fois par jour. Vraiment, je la changeais trois fois, quatre par jour. Elle avait constamment, sur toutes les photos que j'ai, elle a toujours un bavoir parce que j'en avais marre de la changer. Donc, en fait, elle avait le bavoir. Là, tu sais, le bavoir est comme ça quand tu as régurgité. J'enlevais le bavoir, je mettais un autre bavoir.
Changé, ouais.
C'était la tenue. J'avais toujours des langes à portée de main. Il y en avait à côté d'elle, à côté du canapé, à côté de son lit. Il y en avait partout, partout, partout. Donc, ouais, j'ai aidé l'industrie du linge et des bavoirs. je retourne voir la pédiatre et là... Donc là, le temps a passé, elle doit avoir 2 mois. Et donc là, je retourne voir la pédiatre et donc elle me demande comment ça se passe. Donc, il était 15 heures à peu près, donc j'étais venue en poussette en métro. Donc, elle avait dormi dans la poussette. Ça se passait très bien depuis son biberon. Elle avait dû manger vers midi. Ça se passe très bien. Oui, parce qu'elle aussi, vous avez détesté, elle se passait bien ses biberons.
Donc, non, mais c'est très bien. Il faut le dire aussi quand ça arrive. Hein. Faut pas parler que des catastrophes. Non, des
j'ai beaucoup de chance au niveau du sommeil avec mes filles.
Mais tu dois la changer 4 fois par jour, donc au final. Hein.
Oui, ouais, c'est ça. Mais j'en discutais avec des parents et on se disait que oui, voilà. il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Donc, j'arrive chez la pédiatre, je la sors de la poussette, donc je l'ai dans mes bras, donc je la change de position en fait. Et c'est là où on s'est rendu compte, ça arrivait aussi la régurgitation quand on change bébé de position. Donc, elle était dans la poussette, là, un peu semi-allongée, dans le cosy. Je la prends dans mes bras et elle me dit, est-ce qu'elle régurgite toujours? Est-ce que ça va mieux avec le gaviscon? Donc là, je l'avais déjà vu pour ces 1 mois, hein, donc j'avais dit que c'était bon. Et donc là, je lui dis, on est toujours sur deux grosses régurgitations par jour. Je dis, mais en fait, la pédiatre n'avait jamais vu ce genre de régurgitation au final. Donc, elle était restée sur « elle a mal ». Là, je dis, mais là, elle n'a plus mal, sa voix n'est pas cassée. Elle regarde sa bouche, elle dit, ah oui, c'est bon, là, on est bien. Elle commence à la manipuler, regarde à droite, est-ce qu'elle fait bien ci, voilà, est-ce qu'elle attrape, je ne sais pas si elle attrape les objets, mais elle fait des petits tests qu'on fait aux 2 mois. Ouais. Donc, je reprends ma fille dans mes bras et là, elle me dit, vous pouvez la déshabiller, je vais la peser. Donc, je la reprends dans mes bras, je commence à lui enlever son petit haut et là, alors, elle n'était pas tournée vers moi, en plus, elle était tournée vers la pédiatre et là, elle fait mais un geyser. Et ben voilà, j'ai dit, voilà, c'est ça qu'elle fait depuis sa naissance, c'est ça, là, vous avez assisté en direct.
T'as eu de la chance que ça arrive en fait finalement dans le cabinet.
Exactement, et là, mais elle a quand même toujours été à l'écoute, hein, cette pédiatre.
Oui, bien sûr, bien. Mais bon.
Et donc là, elle regarde et elle me dit, ah oui, c'est assez important là. Je dis, et là, vous êtes d'accord que c'est tout son biberon? Elle me dit, une grosse partie, oui. Et elle me dit, ça fait combien de temps qu'elle a mangé? Et là, je lui dis, elle a mangé, ça fait 3 heures. Donc, et là, je lui dis, et je me souviens de cette phrase, je lui dis, ça fait 3 heures qu'elle a mangé, c'est normal qu'elle fasse ça? Et elle me dit, ah non, c'est pas normal. Là, je vais, ouais, là, elle m'a dit, ouais, là, votre fille est clairement RGO plus. Elle a dit, là, il faut la mettre sous traitement, effectivement.
Donc, un autre traitement que ce que tu avais à la base, qui était le gaviscon.
Avant, c'était le gaviscon, qu'on peut même trouver, je crois, en libre service.
Oui, d'accord. Voilà.
Là, on est passé sur un traitement il faut absolument une ordonnance et qui est un traitement assez lourd. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dire tout le temps, pour oui et non, mon enfant est RGO, parce que c'est vraiment un traitement spécifique pour les RGO qui est très, très lourd, qui s'appelle l'Inexium.
Ouais. On en entend beaucoup parler. Hein. Tu vois, moi, c'est un nom de médicament que je connais alors que j'en ai jamais utilisé, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez courant, finalement.
Alors, parce que souvent, il est prescrit comme ça pour un oui et pour un non, mais nous, notre pédiatre nous a bien expliqué, elle nous a demandé notre avis, elle nous a dit, voilà, là, effectivement, d'après ce que vous me dites, et d'après ce que je vois, elle m'a dit, ça va pas s'arranger, ça va être comme ça. Et elle a dit, maintenant, je vous préviens, l'Inexium, quand on commence, c'est un traitement de longue durée. On ne le fait pas pendant 3 mois, machin. Elle a dit, c'est un traitement de longue durée parce qu'en fait, si on l'arrête trop tôt, il y a un effet rebond. Donc, elle nous a bien mis en garde, sachant qu'elle, notre ancienne pédiatre avant qu'on déménage, du coup, elle était très anti-médicaments. Tu vois, vous voyez, elle était très plutôt pour l'homéopathie, tout ça. Donc,
Oui, donc elle limitait quand même au maximum.
Elle limitait au maximum. Donc, vraiment, si elle nous a prescrit l'Inexium, on s'est dit, c'est que vraiment là, c'est nécessaire. Et en plus, donc, au début, elle nous a prescrit donc, une petite dose. Et en fait, ça a absolument changé. Et finalement, elle a eu une très, très dose. Elle a été la dose maximum à 10 mg. Donc, c'est la dose maximum. Là, à partir de là, on est rentré avec notre petite ordonnance. Et en fait, moi, je m'étais dit, OK, ça va... Enfin, je me suis dit, et à juste titre, OK, ça va rentrer dans l'ordre, ça va aller mieux, elle va reprendre du poids, tout ça. Et surtout, elle va moins pleurer. Parce que du coup, elle avait mal. Et sous, elle pleurait toujours quand elle déglutissait un petit peu après. Et c'était un bébé qui buvait énormément d'eau aussi. Et donc, on rentre, je donne l'Inexium. Et puis, j'attends quelques jours et tout. Et là, métamorphose, le jour et la nuit. Plus aucune régurgitation, et un bébé, mais bien, joyeux, le jour et la nuit. Ça n'a pas empêché qu'elle ait toujours des douleurs de gaz, etc. L'inexium, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que si jamais vous pensez que c'est des douleurs d'RGO alors que c'est les coliques, simplement les coliques que tous les bébés ont, ça ne va rien changer. Non, non. Donc là, elle avait toujours, donc je lui disais toujours ses massages. Donc ça, c'était autre chose. Mais pour tout ce qui est la régurgitation, elle n'y avait plus. Pour tout ce qui est là, qu'elle salivait,
oui.
Vous sentez qu'elle était mal, qu'elle n'était pas bien, elle n'y avait plus. On l'a quand même gardée à chaque fois 45 minutes, on n'est pas fou. Mais voilà, ça arrivait vraiment c'était très très rare qu'elle régurgite, très très rare. Donc ça a été le jour et la nuit, une petite fille qui était beaucoup plus à l'aise. Et je suis pas en train de faire la
non mais c'est bien. Enfin non mais c'est pour montrer qu'en fait aussi quand c'est pris en charge, ça peut aussi bien se passer. Enfin je veux dire, il faut un accompagnement adapté à chaque enfant parce que, et tu vas nous le prouver juste après en continuant ton histoire, c'est que tous les RGO sont pas les mêmes en fait.
Exactement.
Il y a pas un RGO, c'est pas vrai. Il y a autant de RGO, je pense, qu'il y a de bébés existent.
Tout à fait.
Et on peut retrouver des similitudes dans les expériences des uns et des autres, mais c'est vraiment adapté à chaque cas et c'est pour ça que il ne faut pas faire d'autodiagnostic, pas d'automédication non plus, et qu'en cas de doute, toujours, toujours consulter un professionnel de santé. Toi, tu as eu la chance aussi d'être écoutée, en tout cas par ton pédiatre, c'est vrai qu'à la maternité, beaucoup moins, mais par ta pédiatre. Moi, ce que je pourrais conseiller aussi aux personnes qui sont confrontées à des professionnels de santé qui ne les écoutent pas et qui disent que c'est normal, bah, de changer en fait, et d'aller chercher un autre avis médical, parce que bah, peut-être qu'il y a quelque chose et que généralement, en tant que parent, quand on sent qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. C'est que, ok, on s'inquiète peut-être beaucoup, surtout pour un premier, qu'on a tendance à aller voir un petit peu, et peut-être à s'attendre parfois au pire, mais il n'empêche que si on sent au plus profond de nous qu'il y a un problème, c'est qu'il y en a probablement un, et que si on n'est pas écouté, eh ben, il faut aller voir ailleurs, en fait, et aller chercher justement ce médecin qui nous écoutera, ce professionnel de santé qui pourra nous accompagner dans la problématique. Et là, on parle de RGO, mais c'est valable pour toutes les problématiques. Du coup, tu disais que tu avais introduit la nourriture solide assez tôt parce que c'était classique chez les bébés RGO. J'imagine que c'est parce qu'en fait, c'est le côté liquide qui fait aussi, qui augmente les régurgitations.
Ouais, tout à fait. En fait, nous, et puis moi, j'ai été vraiment très en confiance par rapport au diagnostic de notre pédiatre parce que justement, au début, elle ne m'a pas tout de suite dit « Allez, vas-y, on met Inexium, ciao !» Tu vois, elle a tout de suite dit « On va voir, on fait un suivi. » Oui, en fait, du coup, nous, on ne voulait pas donner l'Inexium longtemps. Enfin, elle nous avait prévenu, on est parti sur un an. Généralement, on l'arrête quand l'enfant marche. Mais elle nous avait prévenu qu'il y avait vraiment des effets secondaires, que parfois, ça pouvait faire effet rebond, etc. Donc, nous, on était vraiment parti dans une optique, OK, on veut l'arrêter le plus tôt possible. Dès qu'elle n'en a plus besoin, on veut l'arrêter. Donc, pour ça, on s'est dit, dès qu'elle va être capable, en fait, de manger des purées, il faut qu'on accélère un peu le processus parce qu'il en va de sa santé. Et donc, du coup, ouais, j'ai intégré directement à 4 mois même. Ouais, la veille de ces 4 mois, j'ai intégré les premières purées parce que effectivement, comme c'est moins liquide, alors c'est quand même les purées très lisses, tu vois, mais comme c'est moins liquide, ça va moins facilement remonter par l'estomac et par conséquent, bah, il n'y aura pas cette brûlure. Après, là, on était dans le cas de Blanche, on était dans un RGO externe qui, du coup, ça se
voyait.
Ça se voyait. Et du coup, l'Inexium empêche en fait la brûlure. Donc déjà, ça suffisait en soi. Mais je voulais vraiment aussi arrêter l'Inexium rapidement. Donc c'est pour ça que on a commencé avec mon mari à introduire l'alimentation solide. Et ça s'est très bien passé. Et même à partir de là, il n'y a vraiment plus eu du tout de régurgitation. C'est-à-dire qu'avant, sous l'Inexium, ça pouvait arriver, par exemple, qu'on fasse un trajet en voiture et puis elle reste 3 heures dans le cosy et puis quand on la remonte, il y avait une régurgitation. Ça pouvait arriver, ça restait rare, mais ça pouvait arriver. Alors que là, à partir du moment où on a introduit les purées, il n'y avait plus du tout de soucis.
On reviendra un peu plus tard, parce que le temps file, un peu plus tard sur les conséquences que ça a aujourd'hui sur la vie de ta fille, ce traitement. Moi, ce que je voudrais faire, on va passer aujourd'hui sur... maintenant plutôt, sur ta deuxième fille, parce que tes filles ont en plus pas beaucoup d'écart, donc c'est quelque chose, tu étais presque encore dedans quand t'es retombée dans le RGO. Ta grossesse s'est bien passée aussi pour ta deuxième fille?
Ouais, ma grossesse s'est hyper bien passée, pareil, j'étais très très bien, beaucoup plus fatigante parce que j'avais une petite fille de 12 mois, un an et demi, ouais. Que Adélaïde est née, Blanche avait un an et demi, donc du coup... Là, c'était assez sportif, mais aussi nous, ouais. Mais beaucoup plus fatigante par rapport à la première.
Et la naissance, alors, est-ce que ça s'est passé différemment?
Ouais, la naissance a été géniale. Donc, j'ai accouché en plein Covid-19.
Ah ouais, chouette.
J'ai accouché en 6 minutes. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai eu les premières contractions, elles ont été directement hyper violentes. J'ai dit, direct, il faut aller à la maternité. Je suis arrivée à la maternité. Ah ouais, madame, bah ouais, vous êtes à 7,5. Est-ce que vous voulez la péridurale ou pas? Là, je regarde Jules. Non, il n'était pas là, Jules. Parce qu'il n'avait pas le droit d'entrer, en fait. Il n'a pu entrer qu'après.
Ah là,
là. Là, je me dis, ouais, je vais demander la péridurale. J'ai super mal. Je demande la péridurale. Ils disent, là, j'étais, mon mari, quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? Il pourra venir vous voir quand vous serez en travail. Et là, et il me pose la péridurale, mais en fait, c'était trop tard. J'étais déjà à 9, donc la péridurale n'a pas fait effet. Et donc là, ils vont chercher mon mari arrive. La sage-femme revient, regarde, fait « Ah, vous êtes à 9,5, bah, on peut commencer à pousser. Allez-y, madame. » Donc, ça a été très, très vite. Hein. Là, il s'est passé même pas une heure hein, entre le moment où je suis arrivée à la maternité. Donc, 19h46, allez, poussez, madame. 19h52, Adélaïde sur moi.
Génial! Sans intervention, du coup?
Sans intervention, j'ai pu la garder sur moi autant que voulu. Voilà, ça se passe très bien. Papa est là, enfin, mon mari est à côté. Ça se passe très bien. J'ai un petit œdème, mais moindre que le précédent.
Ouais.
On me recouvre vite fait. Je veux dire, il n'y a pas eu besoin de mettre la bâche comme le premier. On me recouvre vite fait, etc. Je la reprends sur moi, plein de câlins, etc. Et là où ça se corse, c'est au moment où du coup, donc on avait la grosse valise pour la chambre, le sac pour la sac de naissance, moi et le bébé. Et donc là, l'aide-soignante vient. Si on a une sorte de petit caddie, le berceau du bébé et qui fait caddie en même temps sur le devant. Donc là, on pose la valise, mais il reste le sac à prendre et mon fauteuil roulant. Oui, voilà, il y a le fauteuil roulant. Donc là, l'aide-soignante pousse le bébé. Et puis, mon mari dit « Non, mais c'est pas grave, je vais pousser ma femme et puis je vais prendre le sac à moi. »« Ah, mais monsieur, non, mais vous n'avez pas le droit de monter, hein. On est en plein confinement, là. » Et on fait « Merde !» Putain.
Donc, vous n'aviez pas l'info avant ?
On s'était dit « Peut-être que, vu que là, il est avec moi dans la salle de naissance, tu vois, tu sais, on reste 2 heures en bas dans la salle de naissance et après, tu remontes en chambre. Bah, » Je me suis dit « Peut-être qu'il va monter avec moi en chambre. » Il était 21h, il va peut-être monter avec moi en chambre et puis il va partir après, tu vois, comme il l'a fait pour ma première. Ah non, c'est le confinement. Donc là, c'était hyper dur pour moi parce que là, en fait, et c'est ça qui fait toute la différence avec mon séjour à la maternité, je pense, par rapport à ma première qui a été géniale, etc. On m'a revenu avec moi, il m'a installé dans la chambre. C'est que là, en fait, je me retrouve bim, bam, boum. Elle me dépose dans ma chambre, en fauteuil roulant, allez-y, allez vous allonger, machin. Bébé déposé dans le truc. Salut, au revoir. Là, je me sens, j'ai dit, allez, j'arrivais à marcher là. Là, je lui ai dit, c'est possible de m'aider là, parce que je marchais, mais j'avais bébé dans les bras.
Oui,
et,
mais tu venais de donner naissance, quoi, quand même.
C'est possible de m'aider à déplacer, enfin, ranger, parce que tu vois, je voulais installer genre toutes les couches au même endroit pour que bah, quand je la change, ce soit fait que je n'ai pas à chercher dans la valise, tu vois, m'installer, quoi. Ah, mais vous aurez le temps de faire ça, le premier lever, quand vous vous lèverez, etc. Ok, d'accord. Bah, sinon, j'avais un petit repas hyper sympathique, j'avais bien aimé ça, par contre. Et là, en fait, je suis toute seule et je me dis... Merde, mon mari n'est pas là, je suis toute seule. Et en fait, ça a beaucoup changé de choses parce que je me suis dit, je me retrouve toute seule avec elle. Et là, je suis pleine de culpabilité quand je dis ça, mais ouais, je me retrouve avec ce bébé, tu vois ?
Qui n'est pas ton premier bébé que tu connais.
Qui n'est pas mon premier bébé. Et en fait, ma fille, elle me manque énormément. Et là, je culpabilise, en fait. Je me dis, et je culpabilise parce que je me dis, mais non, mais pourquoi tu n'es pas à l'aise ? Et en fait, En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je suis comme si je m'observais de l'extérieur. Tu vois, c'est très bizarre.
Ouais, en fait, dissociée.
Et donc, en fait, je fais tout machinalement. Tu vois, alors je lui parle, je gazouille, bien sûr. Mais en fait, je suis un peu... C'est comme si j'étais blasée. C'est-à-dire que, tu vois, je donne le biberon, tac, 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 tac. Et après, allez, vas-y, fais ton gros, tata. Allez, vite, vite, je veux te recoucher dans ton lit et je veux dormir. En même temps, je suis très fatiguée. J'ai une grossesse très fatigante parce que rapprochée et puis j'ai pas de temps. C'est pas comme quand c'est notre première grossesse. On a que soi à s'occuper. Là, non seulement j'avais déjà une enfant, mais en plus une enfant petite. Beaucoup de fatigue accumulée et en plus je l'ai compris après que j'avais fait une chute d'hormones incroyable parce qu'en fait je déprimais quoi. Je voulais rentrer
mais
chez
ils
moi.
Ils t'ont cassé dans ta bulle en fait. Juste, tu viens de donner naissance. En plus, ça s'était bien passé et d'un coup, paf. Non, monsieur peut pas venir. Non, on peut pas vous aider. Vous êtes toute seule dans une chambre. Mais en fait, t'es plus dans cette bulle-là d'oxytocine et compagnie.
Ouais.
Et...
Ce qui fait qu'en fait, là, moi, j'ai été dans le matériel. C'est-à-dire que je me suis fait, OK, je pose la petite, je vide mes valises. OK, j'installe tout ça. OK, machin. J'installe tout ça. Après, pareil, j'ai pris ma... Et en fait, le souci que j'ai eu, enfin, c'est pas un souci, mais ce que j'ai eu, c'est que en fait, je me disais, elle est pas comme ma première fille et je la comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, mais... Blanche, je faisais ça, ça marchait. Pourquoi ça marche pas sur Adélaïde, tu vois? je comprends pas, machin. Et en fait, après, je m'en suis oui, parce que je me souviens que Blanche, je l'avais gardée tout le temps sur moi, alors que là, Adélaïde, je la mettais souvent dans son lit. Du coup, elle pleurait souvent. Donc après, je la reprenais avec moi. J'étais un peu, entre guillemets, saoulée. En fait, j'étais saoulée parce que je voulais partir. Il faisait nuit. Je détestais ça. Il faisait nuit à, on était au mois de novembre. Il faisait nuit là. Bah ouais, là, comme là. Il faisait nuit genre à 17h. J'aimais pas ça. Je déprimais. Voilà, je voulais rentrer chez moi, retrouver mon cocon. Voilà. Donc, ouais, j'étais pas bien du tout.
T'as pas connecté de la même façon.
Non, pas du tout.
Que pour ta première. Et ça se comprend, ça s'entend. Attends, c'est... En fait, moi, ce que j'entends dans tes deux histoires, c'est qu'à chaque fois, ça a été brutal quand même, mine de rien. Pour la première, c'était la naissance. Ouais. Et la deuxième, c'était ce qui est venu après.
Et surtout que c'était pendant le confinement. Donc, mon mari, pour les visites, en fait, il pouvait venir me voir, mais genre une seule fois par jour. Et après, s'il partait, c'était fini. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il avait pris des rendez-vous pour la mairie. Donc, c'est-à-dire que bah, s'il avait rendez-vous à... Et il avait le droit de venir à partir de... Ça devait être 11h le matin. Et par exemple, s'il partait, tu vois, à midi ou 13h, il ne pouvait plus revenir. Tu vois, c'était une seule fois, il pouvait revenir. Alors que pour Blanche, il était venu un peu le matin, l'après-midi. Donc là, finalement, je lui avais dit, écoute, ça ne sert à rien que tu ailles le matin. Pose pas tes jours, ton congé paternité. Je préfère que tu l'aies après. Donc, j'ai dit, reste, travaille. Et puis, viens me voir... le soir et il mange avec moi et parce que j'en avais besoin. Du coup, la journée, en fait, au final, j'étais toute seule, mais ça m'allait parce qu'il faisait jour. Et là où je commençais à déprimer, c'était le soir. J'attendais sa venue avec impatience et il venait généralement vers 16h, il venait et puis on...
Mais même ça, c'est difficile parce qu'en fait, finalement, il est considéré comme un visiteur. Et pour, tu vois, même lui, pour se mettre dans ce rôle de père, de deuxième enfant, enfin, ça doit être difficile, en fait. C'est que t'es pas accueilli. Après, c'est vrai que c'est un contexte sanitaire
tout
exceptionnel.
À fait.
Bon, qui n'est plus tellement exceptionnel au bout de 2 ans, hein, j'ai envie de te dire. Mais on commence à être voilà, dedans. Mais qui est quand même pas normal et qui aurait dû être pensé en amont et qui... Enfin, c'est de la maltraitance pour les mamans, en fait. C'est de la maltraitance pour les bébés et aussi pour les papas, juste pour les familles, d'être privé non seulement de ton enfant, d'être privé de ton conjoint au moment où t'en as le plus besoin.
C'est clair.
Parce que enfin, les enfants, on les choisit pas forcément de les faire seuls. Et on a besoin d'être entouré. Et la solitude est ce qui est pire, je trouve, en parentalité. Ouais. Et je suis vraiment désolée pour toi que tu aies eu à vivre ça, parce que c'est pas normal, en fait. Juste, c'est pas normal. Et c'est important de le dire aussi et de mettre des mots dessus, même si c'était il y a un an, même si c'était voilà, aujourd'hui. Je pense que c'est important. Et tu sais, alors, je me demande, moi, parce que les naissances traumatiques, et il y a de plus en plus d'études sur ça, hein, parce que mine de rien, ça reste un peu ça, ont une incidence sur l'après. Et notamment sur tout ce qui est problème, qui peut être problème d'alimentation. Est-ce que toi, tu as déjà connecté les liens ou pas?
Oui, j'ai déjà... Le comportement n'est absolument pas le même entre Adélaïde et bébé. Alors, chaque bébé a sa personnalité, tu vois. Mais absolument pas le même entre Adélaïde au même âge et Blanche au même âge, en fait. Et c'est vrai que moi, souvent, je fais le ratio. Il faut que j'arrête de faire la comparaison, parce qu'elles sont différentes. Mais Adélaïde est un bébé qui a beaucoup plus besoin des bras. Beaucoup plus besoin des bras. Et je compare et je me dis qu'en fait, à la maternité, quand... mon mari était venu pour la première naissance avec Blanche, bah, tu sais, on était remonté en chambre à 8h, il était resté jusqu'à 13h à faire gazouille, gazouilla, à rester avec moi, à former, à faire des FaceTime, à faire des photos, tu vois, à se faire des câlins à trois, voilà. Alors que là, en fait, je me suis retrouvée 1h45 après avoir accouché, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre, mon mari n'était pas là, alors que moi, j'aurais vraiment aimé qu'on... Alors oui, on l'a eu en bas, certes, on l'a eu dans la salle de naissance, mais c'est pas pareil, parce que moi, je suis dans le lit avec ma perfusion. Donc, je suis assez réduite. Et lui, il est sur un fauteuil à côté avec le bébé, après à me le passer, à le reprendre, etc. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse se mettre assis tous les deux dans le lit, à se faire des câlins. Tu vois, genre, on a ce moment à nous. En fait,
famille, quoi.
Voilà. Surtout qu'en bas, bon, ça allait, ça venait. Donc, ça, on ne l'a pas eu. Comme je te disais, voilà. Donc, moi, ça a peut-être fait aussi cette petite cassure dans ma tête, ce qui fait que j'ai essayé de tout gérer. Voilà. Ma première fille me manquait énormément. Donc, je n'ai pas eu forcément le même lien avec ma première fille qu'avec ma première. Je l'ai vu rapidement, même en rentrant à la maison aussi. Alors, certes, quand il y a un deuxième enfant aussi, il faut qu'on se sépare en deux. Mais je le vois aujourd'hui, oui, elle a beaucoup plus besoin d'être rassurée, beaucoup plus besoin des bras et vite.
Parce que ta deuxième fille a aussi connu les RGO de manière différente, puisque ta première, c'était externe, ta deuxième, c'était interne. Comment ça s'est manifesté et à quel moment?
Alors, à la maternité, il n'y a eu aucune régurgitation. Et puis, en fait, c'est arrivé à la maison qu'elle a commencé à faire... Alors, ça n'arrivait pas sur tous les biberons, mais qu'elle a commencé à faire ce fameux geyser.
Ah, elle aussi?
Ouais, elle a commencé à faire...
Ah oui, d'accord.
Ouais. Donc, elle avait du lait normal. Hein. Donc, ce fameux geyser. Et là, j'ai fait... Ah, ça, je connais trop bien. Et on ne me dise pas que c'est juste un quart du biberon. Non, là, c'est tout le biberon. Donc, elle a commencé à le faire. Et là, en fait, avec mon mari, on s'est tout de suite dit, il faut tout de suite aller consulter et tout, parce que on veut pas qu'elle souffre ou qu'elle ait des brûlures, enfin qu'elle est, en fait, voilà, tout de suite, on sait ce que c'est, on a reconnu tout de suite. Pareil, la même pédiatre, du coup, nous a dit, pareil, elle est petite, on va attendre, on va d'abord, vous allez lui mettre du lait AR. Et donc là, on a mis le lait AR, et là, par contre, plus aucune régurgitation, rien, plus aucune régurgitation. Donc, ok, super. Par contre, bébé qui pleure énormément. Pendant ses biberons. C'est-à-dire que je vais pour lui donner le biberon, elle a très faim, et là, je donne, et chaque... Elle prend... Elle s'arrête, elle pousse le biberon, et là, des hurlements. Là, je fais... Là, ça va, elle a mal, quoi, tu sais. Donc, au début, je fais... Bon, elle a peut-être un truc de travers, machin. Je recommence, elle gobe. Tu vois, elle le pousse, elle pleure, elle hurle. OK. Et ça, par contre... uniquement pendant ses biberons, alors que Blanche, tu vois, c'était
l'inverse, ouais.
Ouais. Donc là, je me dis, ah, il y a quand même un truc qui va pas. Donc là, je pense pas du tout au RGO, parce que pour moi, le RGO, c'était extrême, tu vois. Moi, je me dis, ok, je vais quand même en parler à la pédiatre. Donc là, je lui explique, je lui dis, voilà, elle a très très mal pendant ses biberons, et de ce fait, elle ne les finit pas. De ce fait, elle ne les prend pas, parce qu'elle commence à comprendre que je mange et que ça me fait mal. Donc elle dit, ah oui, effectivement, comme votre première fille est RGO, ça pourrait être aussi être un RGO, mais cette fois interne. Elle dit, voilà, vous allez lui donner du Gaviscon. Donc pareil, on repart dans le Gaviscon. Et puis en fait, là, nous, en tant que parents, on n'est pas du tout rassurés. Parce qu'on voit qu'elle a toujours mal, que ça la brûle toujours, donc on y retourne, et là, elle nous donne de l'inexium, par contre, pas à 10, elle était à 2 ou 3 mg, donc tout petit dosage, et on l'a juste ajusté pour lui donner 6, et en fait, là, c'est bon, on a trouvé le bon dosage, et du coup, voilà, plus de douleur, plus de là. Et en fait, c'était plus compliqué à identifier pour elle, parce que c'était interne, donc en fait, elle avait mal, mais ça se voyait pas. C'était intérieur, ça l'a brûlé. Donc pareil, là, on lui donne l'inexium et ça va beaucoup mieux. Par contre, on a remarqué que du coup, on essayait de baisser et que quand on baissait, ça n'y avait pas de changement. Donc on s'est dit maintenant... Alors on a baissé, elle avait genre peut-être 5 mois, hein, tu vois. Donc on s'est dit à 5 mois, peut-être qu'elle en a plus besoin. Peut-être qu'elle en a plus besoin. Donc on l'a limité comme ça de jour en jour, voire un jour sur deux. Et on a vu que ça ne changeait rien. Donc on s'est dit, voilà, on ne va pas lui donner un traitement dont elle n'a pas besoin, on voit qu'elle n'en a plus besoin, et effectivement, elle n'en avait plus besoin. Elle est restée au lait AR, et puis on s'est dit, voilà, elle n'a plus de brûlure, et puis vers ses 5 mois, plus d'inexium, on ne donnait plus de lait Gaviscon, et on s'est dit, on va essayer de lui donner du lait normal pour voir si elle a toujours RGO ou s'il a disparu. Et là, on lui a donné pendant une journée du lait normal, et on a vu qu'il n'y avait plus de régurgitation. On s'est dit, ok, donc il n'y a plus besoin de lait. Est partie, elle a besoin de la mettre sur traitement.
Est-ce que vous avez commencé la diversification aussitôt avec elle ?
Oui, pour le coup, oui. On l'a commencé parce que du coup, effectivement, on voulait arrêter au plus vite l'inexium qui a des conséquences assez importantes. Donc, on voulait l'arrêter au plus tôt. Donc, on l'a commencé comme Blanche, vers 3 mois et demi, vers 4 mois.
Et comme du coup, elle, ses douleurs, c'était au moment du repas, est-ce que tu as noté justement des difficultés peut-être avec l'alimentation ? Est-ce qu'elle rechigne un petit peu à manger ou est-ce qu'elle n'a pas forcément le goût de ça ?
Oui, ça a été... tout de suite, on a fait le lien et ça l'a brûlé encore de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on avait conservé un peu le traitement. Mais oui, même quand je suis passée au purée, c'était encore douloureux pour elle. On sentait qu'elle faisait beaucoup de pauses. Et encore aujourd'hui, elle fait beaucoup de pauses pour boire énormément d'eau. Énormément, oui, oui. Mais après, elle mange bien. Mais je veux dire, je pense qu'elle a gardé aussi ce rapport « je mange, je souffre ». Oui, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui, alors elle a un an, donc elle est encore petite, mais est-ce que tu penses qu'elle prend plaisir à manger ?
Oui. Elle a bien les goûts. Il y a des choses qu'elle aime et des choses qu'elle n'aime pas. Donc, ouais, si, elle, je pense qu'elle
a... Non, mais c'est bien. Mais en même temps, ça montre aussi que, ben, après, ça a été pris en charge, mine de rien, vachement vite, quoi.
Par contre, ma première fille ne prend pas plaisir à manger.
Ouais.
Tu vois ?
Voilà.
Parce qu'elle, elle a été traumatisée par ce geyser qui sort de son corps, en fait, et de « je mange » et ça ressort. Et donc, elle, je le vois, elle mange. Alors, bien sûr, si tu donnes un biscuit, du sucré, tout ça, elle aime bien manger. Mais en fait, manger pour elle, et ça, c'est une des conséquences de l'inexium. Effectivement, Blanche, vu qu'elle régurgitait, elle a toujours eu ses problèmes, entre guillemets, de poids. Donc, il fallait qu'elle mange. Donc, ça a toujours été, entre guillemets, une pression aussi autour d'elle, consciente ou inconsciente de notre part. Hein. Franchement, on est tout autant responsable ou pas. Mais aussi l'entourage de « il faut que tu manges », tu vois. Donc, elle a toujours cette pression de pouvoir manger. On a toujours été un peu dans la pression. Et en plus, quand on a arrêté l'inexium, quelques mois après, il y a eu cet effet secondaire qui fait qu'elle a eu des selles extrêmement dures, mais dures, comme du béton, pas dur, genre vous êtes constipé, dur comme du béton, qui fait qu'en fait, elle n'arrivait pas à évacuer ses selles et que ça lui a fait un bouchon qui lui a fait une fissure anale. Donc une fissure anale, c'est extrêmement douloureux. Je vous laisse imaginer, c'est quand vous avez une petite coupure là au bord de la lèvre et que vous ouvrez la bouche, c'est l'enfer. Alors imaginez, du coup, si vous avez ça au niveau de l'anus, donc dès qu'elle essayait de faire caca, ça rouvrait sa fissure, c'était une douleur. Et la pédiatre nous l'a dit, c'est une des douleurs, mais c'est abominable. Donc imaginez ça pour une petite fille de 1 an et demi. Elle a été complètement traumatisée aussi par l'expérience d'aller à la selle. Donc elle se retenait, donc forcément ça lui refaisait encore plus dur, etc. Donc elle est sous traitement Forlax pour ramollir les selles, mais ça a été très compliqué parce que du coup, et encore aujourd'hui, hein, des fois on est dans des phases, mais là pour l'instant on est dans une phase où ça va assez bien. Elle en a trouvé le bon, ça va. Mais elle a très bien fait le lien de « je mange, ensuite il faut que ça ressorte ». Et ça va me faire mal en ressortant. Donc, si je ne mange pas, je ne vais rien ressortir. Donc, on est toujours aujourd'hui un petit peu en train de se battre pour qu'elle mange un petit peu, parce que sinon, elle va quasiment rien manger. Donc, on est toujours en train d'avoir la carotte. Non, tu manges la compote avant le yaourt. Comme ça, tu as la compote en plus, etc. Donc, on est toujours là-dedans. Et ça, c'est un des gros, gros effets secondaires. Et c'est ce qu'on a voulu éviter avec Adélaïde en arrêtant encore plus tôt. Même si l'Inexium pour Blanche, on l'a vraiment arrêté tôt, puisqu'on l'a arrêté à 8 mois et demi. À partir du moment où elle se mettait debout, elle a commencé à marcher, tu sais, en gobadant de chaise en chaise. Et on a bien fait l'arrêter à ce moment-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle était vraiment, comme je le disais en début d'interview, à 10 mg, qui est le maximum. Donc, elle a vraiment eu beaucoup... et ça a eu cet effet secondaire. Et je pense, la pédiatre nous l'a dit, là, vu que dès qu'on arrête le Forlax, ça redevient des cailloux, je pense que ça peut être... À vie,
et puis enfin ça, comme tu dis, ça peut avoir des conséquences terribles. Encore là, elle est petite, mais ils font le lien très vite entre ce que tu mets à l'intérieur et qui ressort, tout comme au début c'était pas, parce que dans tous les cas c'est toujours quand ça ressort chez elle que ça fait mal. Enfin, tu vois, au début c'était par la régurgitation intense, là c'est par les selles. Donc ça peut, ouais, ça crée vachement de traumatisme. Est-ce que tu constates qu'il y a des aliments qu'elle veut pas manger ou particulièrement ou pas du tout? Enfin, je pense à ça parce que je sais que le RGO peut provoquer des troubles de l'oralité. Est-ce que tu penses que c'est ça?
Alors après, elle a eu des phases comme tous les enfants qui sont normales. Tu sais, elle veut manger que les trucs qui sont avec des contours propres, etc. Mais là, oui, effectivement, elle est beaucoup plus attirée. Elle ne veut absolument pas. C'est pas possible de faire manger de la purée. Elle est beaucoup plus attirée par les aliments qui vont être durs. Elle peut mâcher, tu vois, parce qu'en fait, je pense que ça la rassure, qu'elle va se dire, bon, tu vois, il y a moins de risques, même si ça fait longtemps qu'elle régurgite pas, tu vois, mais il y a moins de risques que je régurgite.
Ouais, carrément. Bon, en tout cas, c'est des choses quand même à surveiller, c'est pas sans conséquence, et c'est pour ça que dès qu'on a un doute, il faut aller voir assez rapidement, parce que là, toi, tu as une prise en charge, mine de rien, assez rapide. Alors, avec des traitements, certes, qui ont des conséquences, mais qui auraient pu avoir aussi d'autres conséquences si tu ne les avais pas eues à ce moment-là, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour tes filles au moment... à ce moment-là, en fait, tout simplement, et c'est chouette. Mais donc, du coup, c'est vrai que quand on a le moindre doute, en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, finalement. Il y a quelque chose, même si on n'est pas écouté, et c'est quand même très problématique. Enfin, s'il vous plaît, écoutez les parents, quoi. S'il vous plaît, parce qu'on les voit au quotidien, nos enfants, on sait quand il y a un truc qui ne va pas, on sait que, quand il y a quelque chose à aller creuser, et c'est vrai que voilà, c'est tellement important, et puis même pour la confiance en soi, après derrière en tant que parent, on sait,
ouais.
Les parents savent.
Pour Adélaïde, tu vois, quand on a arrêté l'Inexium assez tôt, j'ai aussi vu un changement jour et nuit, elle est redevenue très ronchon. Très ronchon parce que je pense que quand on a arrêté l'Inexium, du coup, comme l'Inexium, ça va... empêcher les remontées acides. Je pense qu'elle a de nouveau des remontées acides et que du coup, ça lui fait mal, tu vois. Mais on s'est dit, c'est pas un stade, ça lui brûle pas l'œsophage, tout ça. Donc, on s'est dit, je préfère qu'elle ait un petit peu un inconfort plutôt que poursuivre ce traitement qui est très, très lourd et qui va lui causer mais des dégâts irréparables après. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'accommode de ce petit... qu'elle soit un peu plus ronchon parce qu'elle a pris l'habitude de ronchonner, mais ça fait aussi partie de son caractère. C'est pour ça qu'il faut pas non plus, à l'inverse de ce que tu disais, non plus poser le diagnostic RGO pour un oui, pour un non, et surtout avec l'Inexium. Mais il y a beaucoup de parents en fait, qui recherchent aussi ce traitement parce que l'Inexium va calmer aussi le bébé. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des parents, il a ce facteur. Et moi, je le vois très bien, là, comme je te dis, là, sur Adélaïde. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle est mal parce que elle ne régurgite plus et qu'elle a pas mal quand elle mange. Tu vois, contrairement à avant, quand elle avait ses remontées internes, eh bien, je voyais qu'effectivement, elle avait mal. Là, maintenant, quand elle mange, elle n'a plus mal. Par contre, je vois que son caractère est redevenue comme avant, à râler, tronchon un petit peu pour tout, alors que sous Inexium, c'était un bébé très, très, très calme. Et Blanche a été un bébé très, très calme, qui ne pleure pas. Parce qu'en fait, ça inhibe un peu toutes les petites douleurs que tu peux avoir. Et en fait, tous les petits inconforts que tu as, ça te les enlève complètement, qui sont normaux, en fait.
Normaux, ouais, voilà. Qui font partie du quotidien, qui font partie de la vie et donc, du coup, qu'on n'appréhende pas.
Voilà, et tu as des parents qui sont au courant que l'inexium, ça peut vraiment calmer aussi ton bébé. Donc, des fois, c'est un peu...
Faut pas en abuser. Ouais.
La pédiatre me l'avait dit, elle m'avait dit vraiment, je vous le prescris vraiment parce que j'ai vu là que votre enfant est ça. Et elle m'a dit, parce que pour la deuxième, elle m'a dit, je sais que vous avez un bon diagnostic, vous avez vécu ça avec votre première. Mais elle m'a dit, c'est vrai qu'il y a des parents qui viennent et qui en rajoutent des tonnes parce qu'ils veulent absolument que leur enfant soit sous inexium.
Ouais. C'est pas, et puis de toute manière, là on parle de l'inexium et de ce traitement-là.
Il y en a d'autres.
Il n'y a aucun traitement qui sont anodins en fait. Enfin, juste
non. Ah non.
Voilà, et oui, parfois c'est difficile, et oui, les enfants sont des petites personnes qui un caractère, qui expriment leurs besoins, en fait, tout simplement, finalement, c'est juste ça, qui expriment leurs besoins, et que ça peut être inconfortable pour nos parents, mais en même temps, il faut qu'ils les expriment aussi, et c'est pas un médicament qui changera ça, quoi.
Non, pas du tout, et en plus, il faut se dire que quand on prescrit un médicament comme ça, normalement, votre professionnel de santé va vous dire la même chose qu'il nous avait dit à nous. Il nous a dit, voilà, il faut voir, est-ce que ça va être pire avec le traitement, est-ce que vraiment ce traitement et les effets secondaires valent le coup par rapport à là ? Il se trouve que oui, effectivement, pour mes deux filles, ça valait le coup. Maintenant, je me demande si pour ma deuxième fille, ça valait vraiment le coup. C'est pour ça qu'on l'a vraiment réduit. Pour la première, oui, c'était une évidence. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question. Voilà, sur le moment, ça va tout va être beau, tout va machin. Mais est-ce que vraiment les effets secondaires valent ?
Il faut faire la tendance bénéfice-risque, en fait.
C'est ça.
Ouais. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup Iris pour ta franchise, pour ton honnêteté, pour le partage de ton parcours de maman, de maternité avec tes deux filles. Si on veut te suivre, si on veut te parler, si on veut échanger avec toi, où est-ce que ça se passe ?
Je suis assez active sur le réseau social Instagram, Les Caprices d'Iris. Et puis j'ai aussi un blog que j'alimente régulièrement, lescapricesd'Iris.com.
Et bah, super, merci beaucoup Iris et puis à bientôt.
Bah, merci à toi Elise.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.